Pour passer de belles vacances comme les voyageurs prévoyants, assurez votre voyage avec Suno Assurance et suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Dans Priorité Santé, aujourd'hui, nous parlons de la migraine, une maladie dont le nom est passé dans le langage courant. Et pourtant, une large proportion de malades n'a jamais consulté et a recours à l'automédication, comme si en quelque sorte la migraine était un mal de tête comme les autres, alors qu'il s'agit d'une maladie neurologique qui peut se révéler particulièrement invalidante en raison, bien sûr, des douleurs intenses qui y sont associées. Ces symptômes sont spécifiques, ces crises peuvent être annoncées par des signes avant-coureurs. Connaître donc ces signes et le contexte, certaines circonstances ou habitudes favorables au déclenchement des crises, choisir le traitement adapté pour cesser de supporter la migraine comme une fatalité, la migraine qui peut parfois être associée à des nausées, à une intolérance au bruit ou à la lumière. Et nous allons voir que des prises en charge existent pour ne pas se laisser gâcher la vie, car la migraine peut avoir un important impact sur le quotidien en isolant les malades et aussi peser lourd en termes d'absentéisme professionnel. La migraine, prévention, diagnostic, traitement, nous attendons vos questions et vos messages sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro 33 84 22 75 75. Les migraines, prise en charge de la douleur associée aux épisodes et aux crises de migraines. Nous allons retrouver en ligne du Mali dans quelques instants le docteur Sebou Hassan Diallo, de neurologue au CHU Gabriel Touré, maître assistant à la faculté de médecine et d'odonto-stomatologie de Bamako. Dans quelques instants, le docteur Didier Boissira va nous rejoindre en studio. Il est neurologue spécialiste de la douleur, directeur de recherche à l'INSERM, directeur de l'unité de recherche de physiopathologie et pharmacologie clinique de la douleur à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt et il a signé le livre « L'antidouleur » publié aux éditions du Cherche Midi. Et en fin d'émission, nous allons retrouver la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali.
Priorité santé sur RFI.
Et comme je viens de le dire, on part tout de suite pour le Mali. Une fois n'est pas coutume, nous allons faire un petit focus sur le traitement et la prise en charge de la maladie, en l'occurrence de la migraine, à Bamako. Avec vous, docteur Sebou Hassan Diallo, bonjour.
Bonjour.
Bonjour docteur Diallo, vous êtes neurologue au CHU Gabriel Touré, maître assistant à la faculté de médecine et d'odonto-stomatologie de Bamako. Est-ce que vous disposez d'études, docteur Diallo, qui permettent de savoir si la migraine concerne une large proportion de la population au Mali?
Oui, effectivement, nous avons des données sur la prévalence de la migraine, pas en population générale, mais en population scolaire et puis en population des patients qui consultent dans les structures de santé. Et la prévalence de la migraine est estimée selon les différentes études que nous avons menées de 2007 à 2018 entre 17 et 21%.
Donc une proportion quand même assez importante.
Assez importante relativement sur la population en activité.
Alors, est-ce que les patients connaissent leur situation? Est-ce qu'ils ont le diagnostic en tête quand ils arrivent? Ou est-ce que, finalement, docteur Sebou Hassan Diallo, il faut qu'ils viennent vous voir pour mettre vraiment un nom sur leur souffrance?
Pour la plupart des cas, il faut qu'ils viennent pour qu'on leur dise clairement que c'est en fait une migraine. Quelques rares fois, certaines viennent avec des préjugés, ils disent « j'ai une migraine », mais quand on leur demande c'est quoi une migraine, ils sont incapables de dire clairement les choses. Donc, dans la plupart des cas, c'est au niveau de structures hospitalières, particulièrement dans les services de neurologie du CHU Gabriel Touré et du point G, que le diagnostic est porté.
Alors, du côté de la prise en charge, docteur Sebou Hassan Diallo, qu'est-ce que vous leur proposez?
Alors, nous proposons le plus souvent le traitement en deux phases. D'abord, les migraines, conformément aux standards internationaux, il faut d'abord traiter la crise de douleur qui amène le malade à consulter. Et après, il faut se mettre dans une dynamique de rupture, espacer les crises et voir arrêter les crises. Donc, on fait d'abord le traitement de la phase aiguë en donnant des anti-inflammatoires. Et puis après, le traitement de fond qui est non seulement médicamenteux et aussi l'accompagnement psychosocial sur les facteurs pouvant déclencher les crises migraineuses.
Alors on imagine que quand vous parlez notamment du traitement au long cours, cela a un coût, surtout quand on a besoin des dernières molécules disponibles. Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible, docteur Diallo, pour les patients qui viennent en consultation à Bamako?
Très honnêtement, pour le Malien Labda, ce n'est pas trop accessible parce que quand on prend le traitement de la crise migraineuse qui exige d'utiliser des triptans, ces triptans ne sont pas accessibles pour la plupart des Maliens. Encore, certes, qu'aujourd'hui, avec l'accès, l'assurance maladie obligatoire qui donne certaines facilités d'accessibilité médicamenteuse aux usagers, il y a quelque chose qui est fait, mais ces médicaments ne sont pas encore inscrits sur la liste des médicaments qui doivent passer dans l'AMO. Donc, on utilise beaucoup plus les anti-inflammatoires classiques qui, pour le moment aussi, nous permettent quand même de prendre en charge la plupart des malades.
Alors, docteur Diallo, du côté des recherches maintenant, est-ce qu'il y a des travaux spécifiques qui sont conduits au Mali dans ce domaine des migraines?
Effectivement, parce que nous avons l'avantage, ce que moi je fais, c'est un DU de céphalée et migraine à l'Université de Paris 7, et mon chef de service est certifié en douleur. Donc depuis son retour, vraiment, le cheval de bataille, c'est de mettre en place toute une équipe très compétente sur la douleur, et donc des études depuis 2007 jusqu'à 2018, et récemment sur la qualité de vie des migraineux en milieu scolaire. Donc vraiment, il y a des études très très pointues, mais vraiment sur des populations ciblées, pas en population générale. Les études en population générale nécessitent beaucoup plus de moyens, et malheureusement, les maladies non transmissibles ne faisant pas partie des priorités en termes de financement des sentiers, nous souffrons de ces handicaps.
En tout cas, merci beaucoup. On va conclure cet échange peut-être avec un petit dernier message que vous aimeriez faire passer pour notamment les auditeurs qui nous écoutent au Mali, docteur Diallo.
Le message, c'est, je pense que il faudra que les gens consultent. Il faudra que les gens aient recours aux soins de santé parce que il faudra pas que tous les maux de tête, on les prenne comme des migraines. Alors, que tous les maux de tête, on les banalise. Il faudra que les patients aient recours aux soins de santé pour que le diagnostic de migraine soit posé par des professionnels formés en la matière et que la prise en charge soit une prise en charge adaptée. C'est à ce prix qu'on pourra réduire l'impact de la migraine sur la qualité de vie des malades.
Éviter les confusions, oui.
Voilà. Et aussi éviter de banaliser les maux de tête et se projeter sur la prise des antalgiques de façon abusive. Parce que non seulement c'est un facteur de non-recours aux soins, donc d'aggravation, parce qu'il peut s'agir d'une autre maladie qui n'est pas une migraine, une céphalée secondaire, pour laquelle le diagnostic précoce porté plus rapide, dont la prise en charge rapidement faite, peut sauver le malade, alors que laisser traîner, ça entraînera des complications.
Merci
donc,
beaucoup.
Vraiment,
merci beaucoup pour toutes ces réponses.
L'automédicamation qui est un facteur d'aggravation des maux de tête.
Merci beaucoup, docteur Sebouassan Diallo. Je rappelle que vous êtes neurologue au CHU Gabriel Touré à Bamako.
RFI à Bamako.
Docteur Didier Boissira, bonjour.
Bonjour.
Neurologue, spécialiste de la douleur, on a déjà entendu justement tout à l'heure avec votre confrère de Bamako, le docteur Diallo, ce terme de douleur, de prise en charge et de confusion diagnostique très important à poser. Comment se fait-il, docteur Boissira, que la migraine soit entrée dans le langage commun et que pourtant bon nombre de véritables migraineux ne soient pas diagnostiqués comme tels?
Oui, c'est exact. Effectivement, beaucoup de personnes qui souffrent de migraines ne sont pas diagnostiquées ou pas identifiées. Et c'est vrai que le mot de migraine est employé un petit peu, pas toujours à bon escient, bien sûr. Comme vous le disiez, il est passé un peu dans le langage courant et tout mot de tête est appelé migraine. La migraine est une maladie qui a une définition tout à fait précise, qui est maintenant reconnue depuis très longtemps et qui s'appuie sur des critères diagnostiques tout à fait spécifiques qu'on peut rappeler ici. Hein. La migraine, c'est une maladie qui évolue par crise, hein, ce sont des crises de douleur, des crises de maux de tête, qui se caractérisent plutôt par des maux de tête d'un seul côté, plutôt d'un côté, c'est la moitié de la tête, hein, la migraine, c'est de là que vient le terme, et soit à droite, soit à gauche, soit alternativement droite et gauche. C'est une douleur qui est plutôt pulsatile, donc qui a l'impression que ça bat dans la tête, une douleur qui s'accompagne de nausées, de vomissements, et puis d'une gêne très importante, à la lumière et au bruit. Donc voilà, il y a des critères précis de diagnostic et donc tout mot de tête n'est pas une migraine.
Alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a un processus assez uniforme de déclenchement ou ça dépend vraiment des individus et des moments, docteur Boissier?
Non, ça dépend beaucoup des individus. Il y a des facteurs déclenchants de la migraine qui sont assez spécifiques pour chaque individu. Ça peut être des facteurs tout à fait environnementaux, hein, c'est-à-dire y compris des facteurs alimentaires, des facteurs liés ne serait-ce que aux odeurs, hein, dans l'environnement. Ça peut être également des facteurs d'ordre plus psychologique ou émotionnel, des émotions fortes, qu'elles soient négatives ou positives, d'ailleurs, peuvent être à l'origine de migraines chez les migraineux. Il peut s'agir de facteurs liés au rythme, au changement de rythme, par exemple. Bah, beaucoup de migraineux font quand même des migraines à l'entrée du week-end, au début du week-end ou à la fin du week-end. C'est les changements de rythme au début des vacances. Bref, donc il y a beaucoup de facteurs déclenchants qui sont pas les mêmes pour tout le monde, mais qu'il faut savoir identifier. Et d'ailleurs, les migraineux, le plus souvent, ont identifié les principaux facteurs déclenchants de leur migraine.
Alors justement, il y a des termes bien précis. Migraine, on connaît le mot. Tout à l'heure, vous employez le mot de pulsatile. On a compris ces espèces de pulsations, hein, ces coups, ces battements. Il y a un autre mot spécifique rattaché à la migraine, c'est l'aura, A-U-R-A. Ceux qui ont des vraies migraines savent ce que c'est, mais le grand public, pas forcément.
Alors, il y a deux grands types de migraines. Il y a les migraines, on va dire, classiques, sans aura, qui sont les plus fréquentes, qui représentent 70-80% des cas. Mais il y a effectivement, dans 20-30% des cas, 20% à 30% des patients peuvent souffrir d'une aura, c'est-à-dire un ensemble de symptômes qui vont précéder et accompagner le début de la crise migraineuse. Alors ces symptômes sont très variés, mais le plus souvent il s'agit de symptômes sensoriels, comme des phénomènes visuels, essentiellement des taches scintillantes qui brillent comme ça devant les yeux, ou parfois une petite baisse de vision d'un côté, ou alors ça peut être des choses comme des fourmillements dans la main, ou encore des difficultés à s'exprimer. Donc il y a des signes neurologiques, hein, qui sont différents, que les patients ont bien identifié aussi, et qui vont précéder de quelques minutes à une heure environ avant la crise.
Alors vous êtes neurologue, spécifiquement ces signes, comment on les explique au niveau du fonctionnement du cerveau? Est-ce que ça s'explique déjà?
Alors oui, il y a eu beaucoup de travaux sur la migraine au cours des dernières années pour essayer de comprendre les mécanismes. Et justement, c'est l'existence de ces phénomènes d'aura dont on vient de parler, eh bien, ont rapidement indiqué qu'il y avait un problème au niveau du cerveau, parce que ces signes neurologiques, hein, qui précèdent la crise migraineuse, eh bien viennent du fait que le cortex cérébral, hein, est plus excitable, plus est mis de façon anormale en jeu, et ce qui explique que quand on a des auras scintillants, enfin des phénomènes scintillants devant les yeux, ça s'appelle les auras visuelles, eh bien c'est lié au fait que le cortex visuel, hein, s'active de façon anormale. Quand on a des auras au niveau de la main, des fourmillements, des picotements, des choses comme ça, eh bien là, c'est le cortex dont la fonction est de gérer les sensations au niveau de la main, qui est anormalement excitable. Et donc, on sait que ces phénomènes-là, qui viennent d'une excitabilité anormale du cerveau, une hypersensibilité des neurones, si vous voulez, en quelque sorte, eh bien, va entraîner par la suite, va activer d'autres régions du cerveau qui sont impliquées dans la genèse de la douleur, hein, qui vont créer la douleur, provoquer la douleur. Donc il y a un lien très fort entre ces phénomènes neurologiques qui partent du cortex et qui vont ensuite aller vers d'autres régions du cerveau qui gèrent plutôt la douleur.
Alors illustration, hein, tout de suite, vous restez avec nous, docteur Didier Boissira, tout de suite ce témoignage. Un témoignage, celui de Laurent, il a 39 ans, il vit à Paris, il souffre de migraines justement avec aura depuis qu'il est adolescent et il évoque au micro de Raphaël Constant les conséquences sur son quotidien.
J'ai dû avoir ma première crise de migraine, je dirais vers les 13-14 ans. Mais c'est un petit peu, entre guillemets, une histoire de famille, parce qu'en fait, mon père avait ça, mon grand-père avait ça. Et donc, j'ai seulement découvert ça, en fait, en jouant au basketball. Et tout d'un coup, j'ai eu ma première crise de migraine qui m'a fait un petit peu peur, parce qu'en fait, c'est des crises de migraine avec aura. Donc la première fois, si on n'est pas prévenu, ça peut être un petit peu impressionnant parce qu'on peut se demander un peu ce qui nous arrive. Alors souvent, on dit faussement ce qu'on appelle des migraines ophtalmiques. Mais en fait, normalement, donc ça s'appelle vraiment des migraines avec aura. C'est le vrai terme technique. C'est un peu plus rare que les migraines classiques. On a la phase d'aura avant la migraine qui se caractérise en fait par d'abord une aura visuelle. C'est-à-dire c'est un trouble de la vision qui est un peu difficile à expliquer, qui est un petit peu comme un trait de lumière dans la vision, donc qui suit notre regard et qui progresse petit à petit jusqu'à nous rendre la vision assez compliquée. Après cette première phase, en fait, ça arrête complètement. On a la deuxième phase qui est plus sensitive. C'est la partie gauche de mon corps qui peut s'endormir. On a la main qui s'endort, le corps qui s'endort, le visage et un petit peu une partie de la langue qui s'endort aussi. C'est pas très agréable, mais c'est pas douloureux, mais c'est pas très agréable. Et donc quand ça se termine, après, donc il y a la vraie phase de migraine qui commence, c'est-à-dire les gros mal de tête en fait qui vient derrière ça là en fait.
Et donc depuis l'âge de vos 13 ans, est-ce que vos migraines sont chroniques, récurrentes ?
Pendant toute l'adolescence, c'était des crises de migraine qui étaient assez spacées, beaucoup moins fortes que ça peut être par la suite. Donc du coup, j'ai pas eu de traitement de fond, ça a été vraiment progressif. Mais avec le stress des études, etc., donc c'est vrai qu'à cette période-là, c'est assez compliqué et c'est là où ça peut notamment le plus se déclencher, je pense, en fait. Parce que le stress est un des facteurs déclenchants, malheureusement, avec l'alimentation pour moi. Si je mange trop gras, des œufs, des choses comme ça, etc., où là, tout de suite, malheureusement, ça peut se déclencher ou ça peut me rendre un facteur favorable. C'est-à-dire que si je mange toujours un peu plus gras, sur au bout de deux jours, je vais le déclencher aussi. Il y a la lumière et il y a la faim aussi. Donc il y a quelque chose qu'on, forcément, si on mange à une période régulière, on peut plus facilement éviter aussi de ne pas avoir de migraine.
Et vous, la récurrence à peu près ?
En moyenne, j'aurais dit que c'était à peu près toutes les semaines. Quand on explique qu'on a une migraine, etc., par exemple au travail, les personnes vont dire « Ah oui, bah oui, c'est pareil, moi j'ai souvent mal à la tête, etc. Mais si tu te concentres bien ou machin, tu vas voir, ça va passer ou on peut quand même y arriver, etc. » Effectivement, si je suis au travail, c'est là où je vais essayer de rentrer chez moi assez rapidement, si c'est possible, pour pouvoir prendre éventuellement donc un médicament et me reposer.
Parce que vous avez obligatoirement besoin d'être dans le noir et sans bruit, c'est ça ?
Alors, ce qui se passe, c'est que ça va grandement aider, en fait. Donc, si on lutte contre la migraine, en général, je pense que la migraine sera plus forte. Ça va pas s'arrêter comme ça. Donc, oui, tout à fait, on a vraiment besoin de se couper du monde, de se mettre dans le noir, de se reposer, d'éviter les sons, les bruits, surtout la lumière, bien sûr. Là, on a la chance maintenant d'avoir les triptans. Avant, c'était pas le cas. Des médicaments qui sont assez forts pour couper les crises et avoir une forte chance de bloquer la migraine grâce à ça. Mais une bonne crise de migraine, pour moi, c'est autour de 3-4 heures, en fait, une crise de migraine.
Reportage, témoignage, signé Raphaël Constant. On vous retrouve, docteur Didier Boissira. Ce jeune homme le disait, une migraine héréditaire, est-ce que c'est quelque chose que l'on observe souvent, parents, grands-parents, aïeux, qui eux aussi souffrent de la migraine ?
Oui, il y a un facteur familial, héréditaire dans la migraine, qui est connu depuis très très longtemps. Et effectivement, il y a des familles de migraineux. Ça ne veut pas dire que tous les enfants d'un migraineux seront migraineux, bien entendu, mais il y a un facteur familial, il y a une susceptibilité familiale et qui est liée effectivement à la génétique.
Alors, les migraineux, en général, citent grand nombre de médicaments. Ils jonglent, en quelque sorte, avec ces médicaments. Et puis, il y a ce que l'on appelle le traitement de fond. C'est quoi la différence, justement, entre les médicaments qui sont employés en phase aiguë et en traitement de fond ?
Alors, il est très important de distinguer, justement, les deux types de traitements de la migraine. Tout le monde connaît les traitements de crise, les traitements aigus, que c'est vraiment on a mal à la tête, on prend un médicament, le plus souvent un anti-inflammatoire ou un produit comme les triptans qui ont été mentionnés tout à l'heure. Mais ça, c'est le traitement de la crise ou des crises. Et il existe également un autre type de traitement de la migraine qui est très important à connaître. Ce sont les traitements de fond. Ce sont des médicaments qu'on va prendre tous les jours, crise ou pas crise, et dont l'objectif est de diminuer la fréquence des crises et leur intensité. Et ces traitements sont relativement efficaces. Hein. On ne les prescrit pas à tous les migraineux, on va les réserver aux migraineux qui ont des crises fréquentes, mais l'objectif est d'obtenir au moins une réduction de 50% de la fréquence des crises, et c'est ce qu'on arrive à obtenir dans la plupart des cas.
Alors quand on consulte un patient qui dit souffrir de migraines, docteur Didier Boissira, comment ça se passe? Il y a un interrogatoire pour connaître ces facteurs déclenchants, et puis on conseille d'éliminer ou de favoriser certaines habitudes, certaines conduites?
Oui, bien sûr, une bonne partie de la consultation va consister à écouter le patient, à le faire décrire ses crises, à le contexte de ses crises, pour effectivement identifier certains facteurs déclenchants qu'il faudra aider le patient à supprimer, si c'est possible. Le plus souvent, le patient, d'ailleurs, a identifié ces facteurs et les a lui-même plus ou moins écartés. Donc, une bonne partie de la consultation, effectivement, passe à écouter le patient pour vraiment faire le bilan de sa maladie, à la fois en termes de diagnostic, mais le plus souvent, c'est pas trop compliqué, mais surtout en termes de retentissement sur sa vie quotidienne.
Alors, on va prendre, si vous le voulez bien, tout de suite les auditeurs et les auditrices de Priorité Santé en ligne.
RFI.
Et ce premier auditeur, c'est Herman. Il nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Herman.
Oui, bonjour RFI, bonjour docteur.
On vous écoute.
Bonjour. Oui, alors moi c'est Herman, 25 ans, vivant au Cameroun.
Mm-hmm.
Et mon problème il a commencé l'année passée. Donc je tiens à préciser que je suis informaticien à la base. Donc depuis l'année passée, durant mes activités parmi lesquelles... donner des cours dans des établissements, il arrive que j'ai des maux de tête constants. Mais dès l'année passée, donc après ces maux de tête, après avoir pris un ibuprofène ou un doliprane, le maux de tête, mais l'année passée, j'ai commencé à être très sensible à la lumière. C'était le premier événement. Au point où même la lumière de mon téléphone, je ne supportais plus. Ça créait des violents, des maux des yeux, qui entraînait des maux de tête généralisés. Et puis, ça se répartissait d'un côté, surtout du côté droit de la tête. Donc, et cela se poursuivait par des douleurs au niveau du cou, et plus précisément également au niveau de la nuque. Donc, j'ai donc envisagé consulter un ophtalmologue qui m'a prescrit des verres pour régler l'intensité de la lumière. Bon, cette prescription a géré le côté de la lumière. Maintenant, le principal déclencheur restait le bruit. Quand j'ai trop parlé ou quand je suis dans un milieu trop bruyant, c'est la tête qui se relâche. Donc, cette année encore, j'ai envisagé de demander encore notre expertise. Je suis encore allé voir notre ophtalmologue qui m'a... Puisque les douleurs au niveau du cou, je me suis dit que bon, peut-être que c'est l'étirement des nerfs qui entraînent les maux de tête. Bon, on m'a prescrit de nouvelles lentilles, mais jusque-là, je suis toujours sensible au bruit. Et cette douleur à la nuque qui ne disparaît pas.
Vous parlez d'un ophtalmologue, mais est-ce que vous avez vu un autre médecin pour vérifier d'autres choses, simplement que vos problèmes liés à la vision ou à la réception de la lumière?
Bon, j'ai vu une fois en visite de consultation habituelle, j'ai exposé le problème à un médecin généraliste.
D'accord.
Bon, il m'a dit que ça pourrait être... un mal était passager, mais m'a conseillé de prendre Ibex.
Et personne,
donc, à chaque fois que je...
personne n'a prononcé le mot de migraine malgré les symptômes que vous avez indiqués?
Non. Puisque quand j'ai indiqué cela à l'ophtalmologue, non, personne n'a prononcé le mot migraine. C'est bon, c'est moi, après les multiples recherches que Dieu a fait, et quand j'entends également le docteur citer certains éléments déclencheurs, bon... C'est un élément qu'il a cité en fait partie. Donc, c'est moi qui ai diagnostiqué que bon, ça peut être une migraine.
Docteur Didier Boissira, qu'est-ce que vous pouvez dire à Herman? Il parle effectivement de douleurs d'un côté de la tête. Il parle de cette lumière qui devient insupportable, difficile. On le dit toujours hein, dans Priorité Santé, on ne fait pas de consultation à distance. Mais qu'est-ce que vous pouvez lui dire quand même?
C'est vrai que ce qu'il décrit ressemble tout de même à une migraine. Néanmoins, bien sûr, il faut éliminer d'autres possibilités. Donc, j'encouragerais Herman à avoir un médecin, peut-être pas seulement un ophtalmologue, un médecin soit généraliste, éventuellement un neurologue, s'il en a un disponible à côté de chez lui, pour effectivement faire un bilan et éliminer éventuellement une autre cause. Mais c'est vrai que ce qu'il décrit comme ça ressemble beaucoup à une migraine.
Oui, ça ressemble à une migraine, hein, Herman, si vous pouvez voir un médecin qui pourrait vous orienter, donc pas simplement pour vos problèmes de vision ou de vue, mais bien pour voir d'où viennent ces maux de tête très intenses que vous venez de nous décrire. On vous souhaite en tout cas une bonne journée à Yaoundé. On va rester au Cameroun, hein, mais on part pour Douala, où nous sommes en ligne avec Chimène. Chimène, bonjour.
Bonjour Caroline.
Le docteur...
Et bonjour à l'équipe.
Le docteur Boissira vous écoute, Chimène. Allez-y.
Ok. Voilà, j'ai 35 ans et j'ai commencé à faire des crises de migraine quand j'avais 18 ans. Voilà, et jusque-là, les crises étaient assez espacées, environ 3 à 4 crises par an. Je n'ai pas été consultée jusqu'en 2017. Et j'ai moi-même fait le diagnostic en faisant des recherches sur Internet où j'ai pu reconnaître que les symptômes que j'avais relevaient d'une migraine et précisément d'une migraine avec aura. Parce que je commence à avoir des troubles visuels qui durent quelques minutes et après les violents maux de tête s'installent d'un côté de la tête, s'en suivent les nausées, les vomissements qui, lorsqu'ils arrivent, ils apaisent un peu la douleur. Donc, ce que j'ai eu l'habitude de faire, c'était d'endurer. Et bon, au cours d'une de mes recherches, j'avais découvert que le magnésium pourrait réduire l'intensité des douleurs et même favoriser un espacement des crises. Donc, j'ai commencé à prendre le magnésium en 2015. Ce que j'avais observé, c'était que ça réduisait au moins de 50% l'intensité de la migraine. Bon, entre-temps, au cours de l'année 2016, j'ai eu mon deuxième enfant. Et après, j'ai eu le retour de couche après 8 mois. Et à partir de ce moment, j'ai observé que les migraines étaient plus fréquentes. Donc, elles se présentaient quelques jours avant mes règles, ou alors pendant, ou alors quelques jours après. Voilà, c'est ça qui m'a donc poussé à avoir un neurologue à l'hôpital général de Douala.
Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a prescrit?
À ce moment, il a posé le diagnostic de migraine avec aura. Mm-hmm. Et il a prescrit un anti-migraineux qui mm-hmm. s'appelle du Profémic et du Laroxil. Bon, je n'ai pas pris ces médicaments parce que j'étais cherchée sur du Laroxil. J'ai vu que c'était un antidépresseur. Je n'étais pas motivée à le prendre. Je n'ai pas non plus pris l'anti-migraineux. Donc, il m'a également demandé de faire
un examen.
Mm-hmm. Voilà. Un examen.
Un électroencéphalogramme.
Un électroencéphalogramme, mm-hmm. c'est ça. Donc, je n'ai pas non plus fait l'examen parce que ma grande sœur qui est migraineuse m'a découragée. Elle ayant consulté à Paris, elle me disait on va rien trouver. Les migraines, on les endure, voilà.
Moi, j'ai une question à vous poser, Chimène. J'ai plusieurs questions, en fait. Moi, ce qui m'étonne dans votre témoignage, c'est que vous avez attendu 15 ans avant de consulter et vous faites plus confiance, visiblement, à votre sœur et à Internet, au neurologue que vous allez voir. Alors, vous allez voir un neurologue, j'ai envie de vous demander s'il vous donne un traitement, pourquoi vous ne le prenez pas? Dans ce cas-là, pourquoi aller le voir? Dans ce cas-là, pourquoi aller le voir? Voilà. Moi, si je vais chez le médecin, c'est parce que je me sens mal, je vais être soulagée. Donc, en général, je fais relativement confiance au médecin, je prends le traitement qu'il me conseille. Vous allez sur Internet, vous prenez du magnésium, vous souffrez. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'il vous a donné un antidépresseur, parce que ça fait 15 ans que vous souffrez. Et qu'à la longue, peut-être que ça fait vraiment mal au-delà simplement de la tête. Ça fait mal dans tout son corps et dans sa personne. Donc, je ne sais pas si le docteur Boissira veut intervenir sur ce sujet.
Oui, bien sûr, ça serait mieux que Chimène prenne ses traitements. Mais juste une précision sur l'antidépresseur. L'antidépresseur qu'on lui a prescrit, ce n'est pas pour la dépression. C'est vraiment un traitement de la douleur et de prévention des migraines et des céphalées. Donc, c'est un traitement de la douleur et de la migraine.
C'est pas parce que le médecin a dit « Ah, elle doit être en dépression, celle-là,
non,
je lui donne un
tout.
Truc ». Non, c'est pas un médicament donné en douce. Ouais, c'est important de le
dire. C'est très, très important de bien comprendre ça, Chimène, et les autres auditeurs aussi, bien sûr. C'est que si on vous prescrit, dans le cadre de la prise en charge de la douleur ou des migraines, des antidépresseurs, ce n'est pas du tout pour la dépression. C'est parce qu'ils ont des propriétés contre la douleur indépendantes de leur action sur la dépression. Et pour vous préciser ça encore plus, on donne des doses très faibles pour traiter la douleur, qui sont à peu près 10 fois plus faibles que celles qu'on donne pour traiter la dépression. Donc on est vraiment dans deux indications très 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 différentes des médicaments. Et là, Chimène, je permets d'insister, si le neurologue vous l'a prescrit, c'est pas du tout pour la dépression, c'est vraiment pour vos migraines. Et ça aurait pu être intéressant de le prendre. J'imagine que c'est sous forme de gouttes, et quelques gouttes peuvent suffire à prévenir, à diminuer la fréquence des crises.
Oui, alors ce qui est important aussi, c'est parce que justement, Chimène va sur Internet, elle regarde, et là, elle voit antidépresseur. Donc, elle a l'information sans avoir ce que vous, vous avez les médecins, puisque vous avez une formation appropriée, pour avoir toutes les lignes, toute l'explication de tel ou tel
produit. Exactement,
bah,
c'est toujours le même problème. Effectivement, sur Internet, on trouve tout. Hein. Il y a le meilleur, il y a le pire, mais surtout, ce qui manque sur Internet, c'est les explications d'un médecin. Et donc, il est très important de consulter également et d'essayer d'écouter ce que vous précise le médecin, car effectivement, dans le cas présent, il a dû vous expliquer, ou s'il l'a pas fait, il faudrait le faire, qu'effectivement, cet antidépresseur ne vous avait pas été prescrit pour la dépression.
C'était peut-être ça qui vous avait embêté, Chimène, ce pourquoi vous n'avez pas voulu prendre ce médicament, parce que vous, vous ne considériez pas comme dépressif, vous n'aviez pas cette explication pour ce médicament.
Oui, en fait, c'est ça qui m'a embêtée. Et en plus, comme je disais, j'avais des crises assez espacées. En fait. Peut-être je les endurais. Et c'était ma façon à moi de gérer le problème. Je m'étais déjà rendu compte que c'était les migraines, mais les crises étaient assez espacées. Donc, c'était vraiment pas handicapant pour moi.
Par contre, ce dont nous parlait Chimène, c'était aussi justement la relation entre ces crises de migraines et le cycle après son retour de couche. Alors ça, c'est quelque chose qui est fréquent. Ce qu'on voit déjà, c'est que les femmes sont plus concernées par la migraine que les hommes.
Oui, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui souffrent de migraines, à peu près de femmes pour un homme.
Et des facteurs hormonaux.
Effectivement, il y a des facteurs hormonaux et beaucoup de femmes précisent qu'elles ont des crises de migraines au moment de leurs règles, soit juste avant, soit pendant, soit juste après. Alors, il y a effectivement un facteur lié au cycle, hein, c'est évident. Pour autant, le traitement ne repose pas forcément sur des hormones. On va traiter comme les autres migraines. La plupart des crises de migraines sont influencées par le cycle, mais ne sont pas directement dues aux problèmes hormonaux.
Chimène, est-ce que vous souffrez encore aujourd'hui de ces migraines? Est-ce que vous voulez justement retourner en consultation pour éventuellement voir si autre chose pourrait vous soulager?
Bien sûr, qui ne souhaiterait pas être définitivement débarrassé de ce mal atroce. J'en souffre toujours, sauf que je me suis mise sur une cure de magnésium d'environ 3 mois. Et ce que j'ai observé, c'est que les crises étaient davantage espacées. Je viens d'avoir par exemple 2 cycles sans avoir de crise. Et je me suis aussi rendu compte que l'intensité a drastiquement diminué, l'intensité du mal de tête. Je pourrais dire que je suis passée à autour de moins 75% de douleur. Donc, je ne sais pas s'il y a une relation entre
Docteur
la
Wessia.
Crise du magnésium et...
Oui, enfin, il n'y a pas une preuve formelle de l'action du magnésium, mais ceci dit, si vous êtes soulagé, tant mieux. Et si les crises se sont espacées, tant mieux. Je pense que voilà. Effectivement, si vous avez moins d'une crise par mois, c'est pas la peine de prendre un traitement de fond. Alors, un traitement de fond, on va le prescrire chez les patients qui font au minimum 3 crises par mois.
Voilà, Chimène, pour toutes ces explications. On vous souhaite une bonne journée à Douala. On va prendre un dernier auditeur qui nous appelle de Zinder au Niger. C'est Mahamadou. Bonjour, Mahamadou.
Bonjour, Priorité Santé. Bonjour, RFI.
Le docteur Boissira vous écoute, allez-y.
D'accord, j'ai 32 ans en fait et depuis environ 5 ans, je souffre de maux de tête chroniques. Mais ça n'a pas été diagnostiqué par un médecin. Mais quand même, mon médecin m'a prescrit des remèdes que je prends et que j'ai constaté qu'après un certain moment de prise, les médicaments n'ont plus d'effet sur moi. En fait, je voulais juste savoir pourquoi alors ces médicaments n'ont plus d'effet.
La baisse d'effet des médicaments, ces médicaments que vous prenez, c'est quoi précisément?
C'est du doliprane et de l'ibuprofène.
Et du côté de vos crises, Mahamadou, ça se passe comment? Vous avez quoi comme type de douleur? Est-ce que vous arrivez à les décrire plus précisément?
Oui, en fait, ça commence par une fatigue générale. Et puis, à un certain moment, j'entends des bourdonnements dans mes oreilles. Et puis, ça se termine par des maux de tête.
Donc, avec un côté progressif, mais vous n'avez pas mal aux yeux? Vous avez pas de, vous n'êtes pas obligé de vous enfermer dans le noir, par exemple?
Ah non, il n'y a pas tout ces effets-là. C'est surtout les bourdonnements des oreilles-là.
À la limite.
C'est ce qu'il y a comme effet.
Donc c'est mot tête avec cette question précise donc que vous posiez au docteur Boissira. Comment ça se fait la question que pose Mahamadou quand il prend par exemple du paracétamol, hein, il cite le doliprane ou l'ibuprofène. Plus il en prend, moins ça fait effet. Pourquoi ?
Alors bon, il peut y avoir une sorte d'habituation hein, au traitement, mais il est toujours aussi important de bien donner l'information aux patients. Les traitements de crise doivent être pris dès le début de la crise. Il ne faut pas attendre. Plus on attend, moins les traitements sont efficaces. Et c'est vrai que beaucoup de patients se disent « bon, c'est peut-être pas une crise, ça va peut-être passer tout seul ». Donc ils retardent la prise du médicament et malheureusement, on sait que plus on attend, plus dans le déroulement de la crise, plus moins les médicaments sont efficaces, y compris les anti-inflammatoires ou le paracétamol. Donc il est très important de prendre les médicaments au bon moment, c'est-à-dire dès qu'on sent les premiers symptômes. Il parlait de fatigue, de bourdonnement dans les oreilles, de choses comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'il faut prendre le médicament. Et si on le prend dès le début, on augmente significativement son efficacité.
Alors, le temps nous presse. On a une question de Mahomed hein, qui nous a posé cette question du Burkina Faso. Il habite à Bobo-Dioulasso. Il dit que lui-même souffre de migraines. Il a une question assez intéressante puisqu'il dit « Est-ce qu'une migraine peut favoriser l'apparition d'autres maladies ?»
Pas vraiment. Il y a un petit risque augmenté du côté des accidents vasculaires chez les femmes qui ont beaucoup de très nombreuses migraines avec aura et qui ont d'autres facteurs de risque comme une hypertension ou le tabagisme hein, ou qui fument. Sinon, non, il n'y a pas vraiment de grands problèmes associés à la migraine. C'est une maladie quand même qui reste une maladie très bénigne, même si elle a un retentissement très important sur la vie des patients et qu'il faut la prendre en charge. Hein, c'est très important de la prendre au sérieux, de la traiter. Mais heureusement. Heureusement, il n'y a pas de risque majeur de développer d'autres maladies, hormis ce que je viens de dire à l'instant.
Docteur Didier Boissira, on l'a compris, vous êtes neurologue, spécialiste de la douleur. Quand on parle antidouleur, on parle accoutumance aux médicaments, voire phénomène d'addiction. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui s'observe chez des migraineux qui traitent leur terrible maux de tête?
Exactement. Il y a un grand nombre de migraineux qui vont prendre beaucoup de médicaments, mais des médicaments simples, hein, comme le paracétamol, les anti-inflammatoires, ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure. Et on sait, malheureusement, que quand on en prend trop de ces médicaments, eh bien, non seulement ils perdent leur efficacité, mais ils peuvent être eux-mêmes à l'origine de maux de tête. Donc, on est à un phénomène assez paradoxal où ce sont les médicaments contre la douleur qui vont eux-mêmes entraîner des maux de tête. Et donc, quand le patient est arrivé dans cette spirale un petit peu hein, de prise de médicaments, qu'il faut bien identifier aussi quand on les voit en consultation, eh bien, le meilleur traitement dans ce cas-là, c'est pas les médicaments, c'est justement le sevrage. On va essayer de diminuer progressivement tous ces médicaments et en général, la situation s'améliore nettement. Donc, il y a beaucoup de migraineux qui vont voir leur migraine se transformer, ils vont avoir des maux de tête en dehors des crises et ces maux de tête en dehors des crises peuvent être liés aux médicaments si on en prend trop.
Alors, est-ce qu'on a, comme pour d'autres médicaments, docteur Boissira, des personnes ultra-résistantes ou des maladies résistantes qui, finalement, aucun remède n'y fait rien et ces crises sont absolument épouvantables?
Oui, bien sûr, il y a un certain nombre de patients, 10-15% au moins, chez qui tous les traitements dont on dispose aujourd'hui sont inefficaces ou peu efficaces et donc on est très embêté pour les traiter effectivement. On est assez démunis, mais il y a d'autres traitements, il y a d'autres méthodes de traitement, il y a des méthodes non médicamenteuses, donc on n'utilise pas que les médicaments pour traiter les migraines.
Par exemple
des techniques psychothérapeutiques autour de la méditation, des choses comme ça, de l'hypnose peuvent être tout à fait efficaces. L'acupuncture peut avoir un certain intérêt. Et puis, il y a aussi des techniques de neurostimulation maintenant qui commencent à être utilisées et qui montrent une certaine efficacité chez les patients qui ne répondent pas aux médicaments. Et puis, il faut savoir que la recherche dans ce domaine avance vite et qu'il y a des nouveaux médicaments, des nouvelles classes de médicaments qui n'ont rien à voir avec les médicaments dont on dispose aujourd'hui, qui vont bientôt être disponibles. Ils sont déjà disponibles aux États-Unis, dans d'autres pays, pas encore en Europe. Ça devrait être, on espère, le cas dans un an ou deux. Et donc là, on aura encore d'autres outils pour prendre en charge les patients. Mais il faut dire que aujourd'hui, avec les moyens dont on dispose, qu'il s'agisse des médicaments ou d'autres traitements non médicamenteux, il est important d'insister sur le fait qu'il existe beaucoup d'approches non médicamenteuses qui sont efficaces. Eh bien, on arrive à traiter la très grande majorité des migraineux. Donc, il est dommage de s'en priver. Et j'encouragerais bien sûr les patients qui souffrent de cette maladie de consulter s'ils ne l'ont pas déjà fait pour qu'ils trouvent une solution qui leur soit adaptée.
Justement, situation adaptée, est-ce que ça veut dire qu'il y a une éducation thérapeutique systématique avec la prescription de ces médicaments, docteur Boissira?
Comme toujours, comme pour toute maladie, notamment les maladies douloureuses, eh bien, il y a une part d'information, d'éducation, en quelque sorte, du patient qui est extrêmement importante. Il faut lui expliquer les mécanismes, si on peut, de sa maladie, pourquoi il a mal. Et ensuite, il va falloir prendre du temps pour expliquer aux patients les modalités du traitement, qu'il s'agisse des médicaments avec les effets secondaires potentiels des médicaments, la façon dont il faut les prendre. J'ai bien insisté, par exemple, dans le cas de la migraine, sur la nécessité de prendre les traitements de crise dès le début de la crise, sinon ça ne marche pas. Si on donne un traitement de fond, il faut expliquer qu'est-ce que c'est que ce traitement de fond, comment on le prend, etc., quels sont les objectifs, et puis identifier les facteurs déclenchants, on en a déjà parlé, essayer de trouver les moyens de les écarter si possible, etc. Donc, éducation, information, bien entendu, joue un rôle capital dans la prise en charge des patients.
Docteur Boissira, est-ce que certains malades que vous voyez, en plus des douleurs, se plaignent en quelque sorte de ne pas être vraiment pris au sérieux? Peut-être que c'est ce qui était sous-jacent tout à l'heure derrière le témoignage de Chimène quand elle a parlé de ses antidépresseurs. On me dit, finalement, je dis que j'ai mal à la tête, finalement, on me dit que je suis un petit peu dépressive alors que c'est pas quelque chose que je ressens. Est-ce que certains migraineux, en fait, souffrent d'une certaine reconnaissance, comme s'ils psychotaient un petit peu?
Oui, il peut y avoir une part de moindre reconnaissance.
En tout cas, on a des témoignages en ce sens dans le milieu professionnel. Quand les gens s'absentent de façon récurrente, posent des congés maladie à cause des migraines, on dit il a encore la migraine. Un peu, c'est pas une vraie maladie.
C'est vrai, il peut y avoir ce type de problème, puisque effectivement la migraine ça ne se voit pas. Il n'y a pas de test diagnostique, il n'y a pas de radiologie ou de scanner qui vont montrer la migraine. Donc effectivement, ça repose sur les dires du patient. Donc effectivement, il peut y avoir certains patients peuvent souffrir d'une non-reconnaissance, mais je dirais que il faut lutter contre ça. Nous, c'est notre travail au quotidien. Hein. On essaie d'informer à la fois les patients, les confrères et la population en général que ces maux de tête existent, qu'ils sont extrêmement invalidants et qu'il faut les prendre au sérieux quand les patients s'en plaignent.
Est-ce que il existe des enfants migraineux?
Oui, environ 5% des enfants ont des migraines. Oui.
Avec, dans ce cas-là, encore ce fameux facteur de l'hérédité. Souvent, les parents y pensent parce que eux-mêmes dans leur famille ont reconnu de même signe.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a souvent ce facteur familial et donc les parents vont identifier plus assez facilement les migraines de l'enfant. Mais là encore, il faut pas du tout les négliger, hein, puisque ça peut avoir un retentissement majeur, bien sûr, sur la scolarité des enfants et l'abstentéisme, etc. Donc il faut les prendre en charge. Alors là, les médicaments sont un petit peu différents, mais on va aussi utiliser beaucoup de techniques non médicamenteuses chez les enfants parce que ça peut être très très utile. La relaxation, des choses comme ça qui peuvent être très 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 très, très intéressantes et on peut très nettement améliorer la situation également.
Justement, on va terminer sur ce mot de la douleur, des antidouleurs, docteur Didier Boissira. Pour ceux qui ont peur de l'accoutumance, maintenant, ça peut être une démarche inverse, des gens qui ne vont pas prendre d'antidouleurs parce qu'ils disent, finalement, peut-être qu'il vaut mieux endurer ces souffrances que tomber dans une dépendance. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors je dirais que bon, il y a toujours un risque de dépendance, mais quand on prend les médicaments à la bonne dose, à bon escient, au bon moment, eh bien le risque de dépendance est quand même très très limité. Et donc c'est pour ça encore une fois qu'il faut en parler à son médecin, poser toutes les questions que l'on veut, et avoir le maximum d'informations sur la façon, la dose, etc. dont on doit prendre un traitement, car dans la très grande majorité des cas, on n'a pas de problème de dépendance. Ça peut arriver, bien entendu, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais on fait tout pour l'éviter, et quand ça arrive, on peut facilement se défaire de cette dépendance. Donc je dirais, c'est dommage de ne pas profiter d'un médicament ou d'un traitement qui peut être efficace, et encore une fois, on arrive à soulager la très grande majorité des patients à cause de ce risque potentiel qui existe, hein, qui existe de dépendance, mais qui est très limité si on prend les médicaments de façon adéquate.
Adaptée. Merci beaucoup, docteur Didier Boissira. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes neurologue spécialiste de la douleur, directeur de l'unité de recherche de physiopathologie et pharmacologie clinique de la douleur à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne et auteur du livre L'antidouleur, publié aux éditions du Cherche Midi. L'alimentation, la santé, on en parle tout de suite dans Priorité Santé avec vous, Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Stéphane, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. On va revenir, Stéphane, sur la polémique autour de la consommation de vin, son impact sur la santé. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que cette fameuse polémique, ça anime pas mal les discussions, y compris en famille, et bien pourquoi c'est toujours aussi intense en France?
Car en France, depuis des décennies maintenant, le lobby du vin est très puissant et tente de convaincre que le vin ne doit pas être considéré comme un alcool comme les autres, en insistant sur le fait que le vin fait partie de notre patrimoine et que par conséquent sa consommation fait partie de notre culture nationale. Alors ce lobby est arrivé à convaincre de nombreuses personnalités qui multiplient les déclarations qui souvent sont un peu dramatiques pour la santé publique. Alors la dernière polémique sur le sujet est liée à une prise de parole de notre ministre actuel de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui est invité par une chaîne de télévision très connue, a déclaré que le vin n'était pas un alcool comme les autres et a déclaré aussi qu'il avait jamais vu un jeune sortir de boîte de nuit sous car il a bu du Côte du Rhône. Alors ceci est bien sûr totalement faux.
Oui,
car
j'en ai vu.
Voilà, on en a tous vu. Et ceci est totalement faux car même si le vin fait partie intégrante du patrimoine français, la molécule d'alcool contenue dans le vin est exactement la même que celle qui est contenue dans n'importe quelle boisson alcoolisée. Donc la consommation de cet alcool présentera donc les mêmes risques pour la santé qu'un autre alcool.
D'où le rappel des fameux risques de cette consommation d'alcool pour la santé.
Oui, l'éthanol, qui est l'alcool qui est présent dans toutes les boissons alcoolisées, est produit par la fermentation des sucres de différentes matières végétales. Et la consommation d'alcool en excès présente de très nombreux effets négatifs pour la santé. En premier lieu, déjà, il faut rappeler que l'alcool, avant même d'autres effets délétères, est calorique. Donc déjà, il y aura un effet sur la prise de poids, le surpoids et l'obésité. Et ensuite, il y a tous les effets toxiques, dramatiques d'une consommation en excès d'alcool qui va augmenter les risques de cirrhose, du foie, du cancer, de différents cancers, des maladies cardiovasculaires, de démence, mais aussi aura des conséquences dramatiques sur le fœtus et le développement du bébé s'il y a prise d'alcool massive chez la femme enceinte. Et on oublie aussi souvent que la consommation en excès d'alcool a aussi des répercussions sociales avec une augmentation des agressions, des accidents de la route et de pas mal d'autres problèmes plus sociaux.
Avec aussi beaucoup de violences conjugales, notamment.
Oui, tout à fait. Et toutes ces conséquences ont un impact épidémiologique qui est majeur. La consommation d'alcool, il faut le rappeler, le redire, est la deuxième cause de mortalité en France et elle est responsable d'environ 3 millions de décès par an dans le monde. Il est aussi important de rappeler qu'en 2018, le journal scientifique Le Lancet a publié une étude qui démontre que les effets toxiques de l'alcool démarrent dès la consommation du premier verre et vont augmenter ensuite à plus il y a consommation d'alcool.
Et en dehors de la dangerosité de l'alcool, est-ce qu'il y a des bienfaits du vin qui ont été démontrés ou qui n'ont pas été démontrés?
Alors ça, c'est justement là-dessus que les lobbies s'appuient. Alors il y a de nombreuses études qui ont démontré que le vin contient des polyphénols en grande quantité, comme par exemple resveratrol. Ces polyphénols jouent deux rôles principaux, un rôle d'antioxydant et un rôle protecteur sur la dysfonction endothéliale, donc sur tout ce qui va être cardiovasculaire. Et ces polyphénols vont prévenir justement la survenue de maladies cardiovasculaires. Mais attention, c'est là où il faire très attention, cet effet qui peut être positif, notamment lié au vin rouge et en très petite quantité, ça va être un effet positif. Mais dès qu'on augmente la quantité, l'effet positif est battu, j'allais dire, par l'effet délétère de l'alcool. Donc il faut faire très attention à manier cette donnée et pas faire croire aux gens qu'en buvant du vin en grande quantité, on va avoir un effet protecteur cardiovasculaire.
Alors en conclusion, des recommandations pour les auditeurs qui souhaitent adopter un régime alimentaire, c'est-à-dire continuer à boire du vin, mais on va dire raisonnablement, c'est ça ?
Tout à fait. Alors là, il faut reprendre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui sont pas plus de 21 verres par semaine, ce qui fait à peu près 3 verres par jour en moyenne chez l'homme. Du coup, l'OMS, par rapport à ça, dit jamais plus de 4 verres par occasion ponctuelle. C'est-à-dire, il faut pas faire ce qu'on appelle maintenant, pour les jeunes, le binge drinking, c'est-à-dire de boire beaucoup, beaucoup d'un seul coup. Il faut que ce soit réparti. Alors, il faut savoir aussi que pour les femmes, la recommandation est un peu plus basse. C'est 14 verres par semaine, soit 2 verres par jour en moyenne. Alors, l'OMS recommande aussi, et ça, c'est très important, de pas consommer d'alcool chez la femme enceinte. C'est vraiment une recommandation très importante. Et essaye, pour que les gens, justement, n'en consomment pas régulièrement, de recommander d'arriver à s'abstenir de consommer de l'alcool au moins une fois par semaine pour faire cet effort-là. Alors, aujourd'hui, ça, c'est la recommandation générale. Il y a beaucoup de pays qui sont en train, notamment la France et d'autres, d'abaisser ça à 2 verres par jour pour les hommes et 1 verre par jour pour les femmes pour essayer justement de réduire tous les risques liés à l'alcoolisme.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. On se retrouve bientôt dans Priorité Santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. On se retrouve lundi.
Priorité santé avec Suno Assurance. Comme les voyageurs prévoyants, assurez-vous de belles vacances avec l'assurance voyage. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.